Histoire de la Réformation en Europe au temps de Calvin. Livre 2, France, temps favorable. Chapitre 13e, l'étudiant Jean Calvin à l'université d'Orléans, 1527-1528. Calvin, appelé par la volonté de son père et par ses propres convictions à abandonner la carrière du sacerdoce à laquelle il se préparait, avait quitté Paris dans l'automne 1527 pour aller à Orléans étudier la jurisprudence que Pierre de l'Étoile y enseignait avec éclat. Rochelin, Aléandre, Erasme même, dit-on, ont professé dans cette ville. Mais l'Étoile éclipse tous ses soleils. On le regardait comme le prince des jurisconsultes français. Calvin, arrivé dans cette antique cité à laquelle l'empereur Aurélien avait donné son nom, craintif de son naturel et repoussé par les cris bruyants des écoliers, se tenait à l'écart. Cependant, sa nature aimante soupirait après un ami. Il rencontra, au milieu de la foule, un jeune littérateur nommé Nicolas Duchemin qui se préparait à devenir professeur dans la faculté des lettres. Calvin fixa sur lui son regard observateur. Il le trouva modeste, modéré, point susceptible, n'adoptant pas sans examen une opinion quelconque, d'un jugement équitable, d'une extrême prudence, d'une grande douceur, mais aussi de quelque lenteur dans ses mouvements. Le caractère de Duchemin formait un contraste frappant avec la vivacité, l'ardeur, la sévérité, l'activité, nous dirons même la susceptibilité de Calvin. Pourtant, il se sentit attiré vers la douce nature du jeune professeur, et la différence même de leur tempérament répandit un charme inexprimable dans tous leurs rapports. Duchemin, n'ayant qu'une modique fortune, tenait escolier en pension, comme le faisait un grand nombre de bourgeois. Calvin lui demanda de le recevoir sous son toit et devint ainsi l'un des membres de la famille. Il l'aima bientôt avec toute l'énergie d'un cœur de 20 ans et se réjouit d'avoir retrouvé en lui un Momor, un Olivetan davantage même. Il voulait tout partager avec Nicolas, le revoir quand il s'était éloigné et lui parler sans cesse. « Oh mon Duchemin, lui disait-il, oh mon ami, tu m'es plus cher que la vie. » Toutefois, cette ardente amitié n'était point aveugle. Fidèle à son caractère, Calvin discernait le faible de son ami, qui manquait à son gré d'énergie et l'en reprenait. « Prends garde, lui disait-il, que ta grande modestie ne dégénère en indolence. » L'écolier de Noyon, consolé par cette noble amitié, se mit à examiner de plus près le peuple universitaire qui l'entourait. Il s'étonnait en voyant une foule d'étudiants s'agiter dans les rues, sans se soucier des lettres à ce qui lui semblait. Tantôt il rencontrait un jeune seigneur portant des choses collantes, un pourpoint richement brodé, un petit manteau à l'espagnol, un bonnet de velours, un poignard magnifique. Ce jeune sire, suivi de son domestique, tenait le haut du pavé, levait fièrement la tête, jetait à droite et à gauche des regards impertinents et voulait que chacun lui cédait le pas. Plus loin, une troupe bruyante s'avançait. C'étaient les fils de riches bourgeois qui ne paraissaient pas avoir plus de goût pour les études que les fils des nobles et qui se rendaient en chantant et en folâtrant dans un de ces jeux de paume fort nombreux dans la ville. Il y en avait pas moins de 40. 10 nations, réduites plus tard à 4, composaient l'université. La germanique joignait à la beauté vive et ravissante du corps celle d'un esprit poli par de continuelles études. Sa bibliothèque était appelée le domicile des muses. Calvin faisait une singulière figure au milieu du monde qui l'entourait. Sa petite taille et sa face blême contrastaient fort avec le visage robuste et la stature imposante des compatriotes de Luther. Une chose pourtant lui plaisait. « Vraiment, disait-il, cette université est une oasis républicaine au sein de la France asservie. » En effet, l'esprit démocratique se faisait sentir même aux jeunes aristocrates qui se trouvaient à la tête de chaque nation, et la seule autorité incontestée dans Orléans était celle de Pierre de l'Étoile. Cette étoile du matin, comme parlaient les registres de la nation picarde, s'était levée au milieu des brumes et brillait dans l'école comme le soleil. Ce grand docteur joignait à un esprit éminemment juridique un cœur affectueux. Il était inflexible comme la loi, et tendre comme une mère. Sa manière d'enseigner avait un charme inouï. Membre du concile de 1528, il avait prêché la répression de l'hérésie. Mais à peine eut-il rencontré Calvin à Orléans qu'attiré par la beauté de son génie et les charmes de son caractère, il l'aima tendrement. Quoique opposé à la doctrine religieuse du jeune homme, il était fier de l'avoir pour élève et fut jusqu'à la fin son ami, donnant ainsi dès le XVIe siècle un touchant exemple de cette noble équité chrétienne qui sait aimer les hommes tout en repoussant leurs opinions. Calvin, assis sur l'un des bancs de l'école, écoutait attentivement le grand docteur et se pénétrait de certains principes dont nul alors, dans toute la chrétienté, ne songeait à contester la justesse. « C'est de l'obéissance aux lois, disait Pierre de l'Étoile, que dépend la prospérité des peuples. Si elles punissent les attentats contre les droits de l'homme, à plus forte raison doivent-elles punir les attentats contre le droit de Dieu. Quoi ? La loi protégerait l'homme dans son corps, dans ses biens, et non dans son âme et son plus précieux et éternel héritage ? Un voleur ne pourrait nous enlever notre bourse, mais un hérétique pourrait nous ravir le ciel. Jurisconsultes, étudiants, nobles et peuples, tous étaient alors convaincus que la loi devait également garantir les biens temporels et les biens spirituels. Les hommes insensés et furieux, disait le code que Pierre de l'Étoile expliquait à ses élèves, ceux qui, proclamant des dogmes hérétiques et infâmes, rejettent la doctrine apostolique et évangélique du Père, du Fils et du Saint-Esprit en une seule déité et une pieuse trinité, doivent être livrés d'abord à la vindicte divine, mais ensuite frappés d'une peine corporelle. N'est-ce pas là un crime public, ajoutait le code, et bien que commis contre la religion de Dieu, ne l'est-il pas au préjudice de tous? Les jeunes gens de 20 et tant d'années, auditeurs de Pierre de l'Étoile, recevaient de ces paroles des impressions profondes, qui, faites au moment où le caractère prend sa direction, devaient durer toute la vie. Il fallait du temps à l'esprit de l'homme pour se dépouiller de ses préjugés juridiques qui, depuis plus de 1000 ans, étaient la loi universelle des intelligences. Pouvait-on s'attendre à ce qu'un jeune disciple, se levant contre les docteurs les plus vénérés, se mit à distinguer entre la sphère temporelle et la sphère spirituelle, entre l'ancienne et la nouvelle économie, et à insister sur ce que la grâce ayant été proclamée en vertu du grand sacrifice offert à la justice éternelle, il répugnait à l'évangile de Christ que l'homme vengeât le droit de Dieu par de sévères jugements? Non. Pendant le XVIe siècle et même le XVIIe, presque tous les esprits éclairés devaient à cet égard rester plongés dans les plus déplorables errements. Calvin, d'abord timide et craintif, s'humanisa peu à peu. On le recherchait. Il parlait volontiers avec l'un et avec l'autre. Il fut reçu dans la nation picarde. « Je jure, dit-il, de garder l'honneur de l'université et de ma nation. » Cependant, il ne se laissa point lier par l'esprit universitaire. Il eut un esprit plus large que ses condisciples, et nous le voyons en rapport avec ceux de toute nation vers lesquels l'appelait une communauté d'affection et d'études. C'était dans le monastère de Bonne Nouvelle que l'Étoile enseignait. Calvin écoutait silencieusement les paroles du maître, mais on le voyait entre les leçons conversées avec ses condisciples, entrer, sortir, se promener dans la salle, tout comme un autre. Un jour même, s'approchant de l'un des piliers et tirant son canif, il y grava un C, puis un A, et enfin on lut le nom de Calvin, nous dit l'historien de l'université. Ce fut Covin peut-être, nom de son père, ou bien Calvinus, car les étudiants aimaient à latiniser leur nom. Ce ne fut que plus tard seulement que le mot latin étant retraduit en français, le réformateur porta son nom définitif. Ce Calvin subsista longtemps sur le pilier où la main du jeune Picard l'avait gravé, nom de querelles et de débats, insulté par les dévots mais respecté de plusieurs. Ce précieux autographe a disparu, dit l'historien, avec les derniers vestiges de l'édifice. Les Picards, fiers d'un tel condisciple, le portèrent à la plus haute charge de la nation, celle de procurateur. Calvin était ainsi au premier rang dans les processions et les assemblées publiques de l'université. Il devait convoquer, rendre compte, examiner, ordonner, conclure, exécuter, signer les diplômes. Au lieu de réunir ses nationnaires en un joyeux banquet, Calvin, frappé des désordres qui s'étaient glissés dans ses repas, versa au trésor la somme qu'il aurait dépensée et fit don de livres à la bibliothèque commune. Bientôt, sa charge l'appela à déployer cette fermeté de caractère qui a signalé toute sa vie. Ce trait inconnu vaut la peine d'être raconté. Tous les ans, le jour de l'invention du corps de Saint-Firmin, les habitants de la petite ville de Beaugency près d'Orléans se présentaient à l'église de Saint-Pierre et après le chant de l'épître, ils remettaient au procurateur de la nation picarde une pièce d'or appelée maille de Florence, du poids de 2 écus. Voici, dit-on à Calvin, l'origine de cet ancien usage. L'an 687, le 13 janvier, le corps du martyr Saint-Firmin ayant été solennellement exhumé, une transformation merveilleuse s'accomplit dans la nature. Les arbres reprirent leur parure, se couvrirent de feuilles et de fleurs, et en même temps un parfum surnaturel se répandit dans les airs. Simon, sire de Beaugency, travaillé par la lèpre, s'étant mis à la fenêtre de son château pour voir la cérémonie, fut rendu à la santé par cette odeur suave. Il institua comme signe de sa gratitude un revenu annuel d'une maille d'or payée d'abord au chapitre d'Amiens, puis aux étudiants picards réunis en nation à Orléans. Calvin, qui blâme les vieilles bêtises et âneries que l'on substitue à la gloire de Jésus-Christ, n'ajoutait pas grande foi à ce miracle. Toutefois, le tribut n'ayant pas été acquitté l'an 1527, il résolut d'aller avec la nation quérir la maille. Il assemble ses compatriotes, il met en tête la musique et les bedeaux, il ouvre la marche, tous ses nationnaires le suivent, allant à la file l'un de l'autre, et la procession bruyante arrive enfin à Beaugency. La maille fut déposée entre ses mains. Elle portait à la face l'effigie de Jean-Baptiste et au revers une fleur de lys avec ce mot « Florentia ». Les étudiants picards, satisfaits et ayant leur chef illustre à leur tête, reprirent le chemin d'Orléans, rapportant en triomphe la maille d'or comme autrefois Jason et les Argonautes avaient rapporté le col d'Iche à la toison d'or. La procession rentra dans la ville au cri de joie de l'université. Calvin devait un jour enlever aux dragons un plus magnifique trésor et des peuples plus nombreux devaient faire éclater leur joie par de plus grands cris d'allégresse. Calvin, quoiqu'il ne voulût pas se séparer de ses condisciples, souffrait souvent au milieu de cette multitude tapageuse et dissolue, et se détournait avec dégoût des duels, des excès de table et des galanteries qui tenaient une si grande place dans la vie des étudiants. Il préférait l'étude, et s'était mis de tout son cœur au droit. La vivacité de son esprit, la force de sa mémoire, le style remarquable dont il savait revêtir les enseignements de ses maîtres, la facilité avec laquelle il recueillait certains propos, certaines sentences qui sortaient de leur bouche, les saillies et boutades d'un bel esprit qu'à tout coup il faisait paraître, tout cela, dit un catholique romain, le fit bientôt distinguer par ses professeurs. Mais il devait trouver quelque chose de meilleur sur les bords de la Loire. L'œuvre commencée à Paris devait s'affermir et se développer à Orléans. Calvin, toujours aimé de ceux qui le connaissaient, se fit de nombreux amis, surtout parmi certains hommes attaqués par les prêtres et dont la foi abondait en douceur chrétienne. Chaque jour, il avait avec Duchemin des conversations sérieuses. Et puis, pour diminuer ses frais, il partageait sa chambre avec un pieux Allemand, ancien franciscain qui, ayant compris, comme le disait Luther, que ce n'était pas le capuchon de saint François qui sauve, mais le sang de Jésus-Christ, avait jeté aux orties son sale capuchon et était venu en France. L'étudiant picard parlait avec lui de l'Allemagne, de la Réformation, et quelques-uns ont cru que ce fut là ce qui premièrement subvertit Calvin de la foi. Après la maison de Duchemin où soufflait le vent de la vie nouvelle, après la bibliothèque dont le conservateur Philippe Laurent devint son ami, Calvin aimait surtout à se trouver dans la famille d'un avocat où 3 dames instruites, aimables et pieuses, lui offraient une agréable conversation. C'était celle de François Daniel, personnage d'Ibèze, qui, comme Duchemin, avait connaissance de la vérité. Homme grave, influent et doué d'un christianisme intérieur, Daniel, peut-être sa qualité de jurisconsulte y était-elle pour quelque chose, avait un esprit très conservateur, et tenait aux formes et aux ordonnances de l'Église. Calvin, au sortir de l'école, de la bibliothèque et du cabinet, venait se délasser dans cette maison. La société de femmes instruites et pieuses put avoir sur son esprit une influence heureuse qu'il eût vainement cherchée dans le commerce des docteurs. Aussi, quand il était absent, ne manquait-il pas de se rappeler au souvenir de la mère, de la femme de son ami et de Francisca, sa sœur. Il rencontrait quelquefois près de ces dames un jeune homme pour lequel il avait peu de sympathie. C'était un étudiant parisien nommé Coiffard. Vif, actif, intelligent, mais égoïste. Combien il lui préférait Daniel, chez lequel il trouvait un esprit si solide, une âme si élevée, et avec lequel il avait de si utiles conversations. Les deux amis étaient d'accord sur un point. Une réformation de l'Église est nécessaire. Mais ils rencontrèrent bientôt un autre point qui devait créer un jour entre eux un dissentiment profond. Cette réformation, disait l'avocat, doit s'accomplir dans l'Église. Nous ne devons pas nous séparer de l'Église. Les rapports de Calvin avec Duchemin devinrent peu à peu moins fréquents. Celui-ci, fort négligent de sa nature, ne répondait pas aux lettres de son ami. Mais l'attachement de Calvin pour Daniel ne fit que s'accroître aussi longtemps que le réformateur demeura en France. Et c'est à lui que sont adressées presque toutes les lettres qu'il a écrites de 1529 à 1536. Toutes ces amitiés ne suffisaient pas encore à Calvin. Il entendait parler chez Daniel, chez Duchemin, à la bibliothèque, partout, d'un homme qu'il brûla bientôt de connaître et qui exerça sur lui plus d'influence que tous les autres. Un pauvre jeune Allemand de Rodeveil, nommé Melchior Volmar, était venu à Paris, et, obligé de travailler pour vivre, il avait été quelque temps correcteur d'imprimerie. Avide de connaissances, le jeune prote laissait de temps en temps ses épreuves pour se glisser parmi les étudiants qui se pressaient en foule autour de l'illustre Jean Lascaris de Budet de Lefebvre. Il devint à l'école de celui-ci un sincère chrétien, à l'école des deux premiers un grand helléniste. Promu maître S. Art avec 100 autres, il obtint le premier rang. Devant un jour, c'était en Allemagne, improviser un discours dans sa langue maternelle, Volmar demanda la permission de parler en grec parce que, dit-il, cela lui était plus facile. Il avait été appelé à Orléans pour l'enseignement de la littérature grecque. Pauvre encore, malgré sa science, il avait chez lui un petit nombre de jeunes enfants de bonne maison. « Il a été mon fidèle précepteur, dit Théodore de Bèze, l'un d'eux. Avec quelle adresse merveilleuse il enseignait non seulement dans toutes les bonnes disciplines, mais aussi dans la piété. Ses élèves ne l'appelaient pas Melchior, mais Melior, meilleur. Calvin, dont l'âme élevée était attirée par tout ce qui est beau, se lia avec ce professeur distingué. Son père l'avait envoyé pour étudier le droit civil, mais Volmar le sollicitait de s'adonner à la connaissance des classiques grecs. Au premier moment, Calvin hésita. Il se rendit enfin. « J'étudierai, dit-il, mais puisque c'est vous qui me donnez l'impulsion, il faut aussi que ce soit vous qui me donniez le secours. » Melchior lui répondit qu'il était prêt à lui consacrer abondamment non seulement son enseignement, mais encore sa personne, sa vie, lui-même. Dès lors, Calvin fit dans la littérature grecque les progrès les plus rapides. Le professeur l'aimait par-dessus tous ses élèves. C'est ainsi qu'il fut mis en état de devenir le plus illustre commentateur des Écritures. Cette connaissance de la langue grecque, ajoute Bèze, a servi très grandement à toute l'Église de Dieu. Ce que Cordier lui avait été pour le latin, Volmar le fut pour le grec.